Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
C'est ça la France, du chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du lagel à l'opin.
Bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On va s'intéresser aujourd'hui aux maisons passives, aux rénovations écologiques. Et oui, en France, le secteur du bâtiment est celui qui consomme le plus d'énergie parmi tous les secteurs économiques. 70 millions de tonnes d'équivalent pétrole chaque année, ce sont les chiffres de l'Agence de la transition écologique. Autant dire que le secteur du bâtiment a un rôle essentiel à jouer dans cette transition écologique. Tout à l'heure, je vous ferai découvrir un Toulousain qui a su s'imposer sur le marché de la peinture biosourcée, une peinture à la fois naturelle et assainissante, unique en France et made in Toulouse, pour décorer son chez-soi sans polluer. Mais tout de suite, bienvenue à notre première invitée spécialiste des maisons passives.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Hugues Vernot.
Bonjour.
Bienvenue dans C'est ça la France. Vous êtes le fondateur de Gara. Gara, vous aidez à la construction de bout en bout de maisons passives. Alors, juste avant de nous expliquer ce qu'est une maison passive, quelques chiffres pour nous recontextualiser. Je le disais en introduction, 70 millions de tonnes chaque année équivalent pétrole pour le secteur du bâtiment. Est-ce qu'on a des chiffres en termes de production de déchets, de production, de consommation de ressources naturelles ?
Alors, tout à fait. Le secteur du bâtiment est le secteur le plus producteur de déchets, puisque on estime en termes de poids qu'il produit 80% des déchets que l'on produit en France.
80%,
ça représente 5 fois plus que les ordures ménagères, par exemple.
D'où l'importance et l'urgence de mieux gérer le déchet de chantier. Alors justement, avec vous, on va tout savoir sur la construction écologique. C'est quoi une maison passive ? Qui est une solution, d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, une maison passive, c'est pas une maison qui produit forcément moins de déchets. Par contre, c'est une maison qui va consommer moins d'énergie pour le chauffage, que ce soit le chauffage de l'eau chaude sanitaire ou le chauffage de la maison, de l'air ambiant. Alors, une maison passive, il n'y a pas actuellement de normes pour déterminer ce qu'est une maison passive. Par contre, il y a un label qui est d'origine allemande, qui s'appelle le label Passive House, et qui va permettre en fait d'avoir des normes de construction qui sont les plus avancées au monde pour construire des maisons qui ne consomment pas ou quasiment pas.
Oui, c'est le terme passif, hein, c'est ça, pour que le bâtiment soit passif, il faut que la chaleur dégagée à l'intérieur de la construction, donc celle qui, je pense, apportée par nous, être vivant, tous les appareils électriques, et celle apportée par l'extérieur, donc le soleil, suffise à répondre aux besoins de chauffage.
Tout à fait. Alors la norme nuance quand même un petit peu la réglementation nuance un petit peu ce propos, donc c'est moins de 10% de jours de chauffage par an pour pouvoir déclarer une maison passive. Mais tout à fait, effectivement.
Alors justement, vous aidez à la construction de bout en bout de ces maisons passives. Quels sont les matériaux utilisés en construction écologique ?
Alors, les matériaux utilisés en construction écologique, ça va être l'ensemble des matériaux dits biosourcés et géosourcés. Ce sont des matériaux qui ne sont pas issus de l'industrie, mais qui sont pour la plupart des fibres de végétaux que l'on va avoir plus ou moins transformés pour pouvoir les mettre dans nos murs. Ça peut être aussi des matériaux de réemploi, comme par exemple le célèbre, en tout cas dans le secteur de la construction écologique, le célèbre métis, qui est une matière qui vient des points relais qu'on a sur le bord des routes pour recycler des vêtements, par exemple.
Mais alors, il faut le dire, parce qu'il y a une future réglementation qui va arriver environnementale des bâtiments neufs, je crois au 1er janvier 2022, qui est là aussi pour diminuer l'impact carbone des bâtiments, améliorer les performances énergétiques de ces lieux de vie. Donc, est-ce qu'on peut dire finalement que les matériaux biosourcés, ces constructions écologiques vont devenir obligatoires et elles vont transformer de manière colossale le secteur du bâtiment et surtout la maison individuelle des Français ?
Alors tout à fait, il y a cette loi, la RE 2020, RE 2020 qui va arriver, qui est l'évolution de la RT 2012 qu'on commence à bien connaître, qui sont les réglementations sur la thermique du bâtiment et qui va en fait révolutionner la façon dont on fabrique des bâtiments, parce que pour la première fois cette norme en France va s'intéresser à ce qu'on met à l'intérieur de nos murs, à la qualité des matériaux et donc va déterminer la pollution à la production des matériaux au moment de leur production et leur impact au moment de la démolition du bâtiment. Et donc, les architectes, les maîtres d'œuvre vont devoir choisir les matériaux en fonction de leur impact environnemental. Et ça, c'est une vraie révolution.
Une vraie révolution, porteur d'emplois aussi. Hein. Ça va permettre aussi peut-être de transformer les emplois, mais c'est un secteur qui va vraiment devoir se réinventer.
Alors complètement, nous, chez Gara, on propose des formations parce que justement, il va y avoir énormément de compétences à ajouter, des modèles vont devoir évoluer, il y a des filières pour lesquelles ces changements vont profiter.
D'autres qui vont être abandonnés, oui.
D'autres qui, effectivement, vont devoir tout du moins évoluer. Par exemple, la filière du béton, qui va devoir trouver des solutions pour pouvoir produire moins de CO2, hein, puisqu'ils ont un objectif de diminution de production de CO2 de 30% d'ici à 2030, ce qui est énorme pour cette filière. Et puis, on a la filière bois qui va se développer. Voilà. Donc, l'idée, créateur d'emplois, oui, ça certainement, des nouveaux métiers. On a, par exemple, des ingénieurs ACV, analyse en cycle de vie, qui vont avoir une place de plus en plus importante dans la construction des bâtiments. Donc oui, pas mal d'évolutions en perspective pour une norme qui va être progressive jusqu'en 2030.
On se situe où par rapport à nos voisins européens sur ces bâtiments passifs, sur ces réglementations environnementales ?
Alors je dirais que de façon un petit peu générale, plus on va au nord de l'Europe, plus la réglementation a évolué tôt. Par exemple, avec la RE 2020, on va rattraper le retard. Alors, encore une fois, norme qui est progressive jusqu'en 2030. Donc, en 2030, on devrait avoir rattrapé le retard qu'on a pris par rapport à nos voisins européens du nord. Par contre, effectivement, plus on va au sud, moins on a de problèmes de perte de chaleur.
Oui, c'est vrai.
Et donc, moi, la question se pose et plus elle est posée tard. Voilà.
Alors, au niveau des habitudes des Français, est-ce qu'ils sont prêts à abandonner la vieille pierre, l'héritage patrimonial pour aller vers des maisons en bois, en fibre, des maisons plus écologiques ? Comment est-ce qu'ils accueillent tout ça, ces Français ?
Alors, la tendance qu'on voit aujourd'hui sur la maison en bois et la maison écologique, effectivement, c'est une montée d'intérêt très forte de la part des Français. On a de plus en plus à la fois des missions, on a l'industrie du bricolage aussi qui va dans cette direction. On a aussi des contraintes un petit peu structurelles. Par exemple, dans nos villes, les nouvelles constructions sont de plus en plus difficiles à réaliser. On va parler d'extension, on va parler de surélévation et les matériaux comme le bois, sont des matériaux beaucoup plus légers qui vont permettre, avec ce qu'on appelle aussi des chantiers propres, qui vont permettre de faciliter ces extensions et ces surélévations. Et donc beaucoup de constructeurs aujourd'hui se tournent vers le bois pour enrichir leurs compétences. Ouais.
Vous parlez d'extension, ça fait partie des secteurs, des demandes qui ne cessent d'exploser hein, dans le secteur de la maison et de la rénovation.
Tout à fait. À la fois à cause de contraintes réglementaires, hein, les permis de construire qui sont effectivement les nouveaux permis de construire qui sont quand même des contraintes réglementaires importantes. Et puis les Français ont besoin aussi de plus d'espace. Et c'est vrai que le bois est une méthode assez idéale en fait pour construire des extensions. Voilà.
Alors, comment suivre une formation chez vous parce que là, vraiment, vous nous donnez envie d'en savoir davantage, de pouvoir être justement dans cette tendance des maisons passives. Comment faire ? Est-ce que c'est disponible dans toute la France ? Est-ce qu'il faut venir sur votre site ? Comment suivre une formation chez vous ?
Alors, vous pouvez déjà commencer par voir ce qu'on propose sur notre site internet, donc www.gara.fr. ou en tapant GHARA Gara dans Google. Effectivement, nos formations sont ouvertes aux particuliers autoconstructeurs ou simplement curieux et aux professionnels. On a plusieurs types de formations. Aujourd'hui, on s'adresse principalement à une population d'architectes, mais aussi de bureaux d'études côté professionnel. Et puis, on a trois formations ouvertes aux particuliers. On est basé à Nantes et à Paris. pour les formations dites en inter, où on vient accueillir dans nos locaux. Et il est aussi possible de faire des formations dans toute la France dites en intra. On se déplace directement chez les clients, plutôt pour les professionnels, par exemple dans des agences d'architecture qui auraient plusieurs salariés à former. On se déplace directement chez eux pour effectuer les formations.
Merci beaucoup Hugues Verneux. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Gara. Gara qui justement forme à toutes ces maisons passives, à ces constructions écologiques. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Je vous en prie.
Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.
Merci, moi aussi. Au revoir.
Allez, on va se quitter un court instant. Mais juste après, on ira du côté de Toulouse découvrir une entreprise qui a mis au point une peinture biosourcée et assainissante, unique en France, qui permet de dépolluer l'intérieur d'une pièce et qui rencontre un franc succès. On en parle tout de suite dans quelques instants.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio CSA La France, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans CSA La France, l'émission du savoir-faire français. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la rénovation écologique, à toutes ces maisons passives. Et maintenant, à la décoration aussi intérieure, qui se veut de plus en plus écologique. Là encore, on va aller du côté de Toulouse, rencontrer justement une entreprise qui a développé une peinture assainissante, une peinture écologique et biosourcée.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Cédric Laurent, le fondateur de la marque Colibri Peinture. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Alors justement, on en parle à l'instant, les Français sont quand même de plus en plus tournés vers la décoration, avec le confinement, le télétravail. On repère les fenêtres qui ne vont pas, on repère les peintures qui ne vont plus. On se dit finalement, cette pièce, elle mériterait bien d'être rafraîchie. Et vous proposez une peinture biosourcée et assainissante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que c'est une offre unique en France.
Alors vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui refont leur intérieur. On a accompagné presque 4000 projets l'année dernière, donc effectivement il y a beaucoup beaucoup de projets. Et notre peinture a été intéressante dans le cadre effectivement d'un confinement aussi, puisque étant biosourcée, fabriquée à base de résine végétale et non plus de pétrole, elle ne dégage pas de composés organiques volatiles, elle est fabriquée à base d'eau et sans solvant pétrochimique. Donc c'est vrai que repeindre son intérieur quand on est confiné et qu'on peut redormir dans la même pièce le soir même, parce qu'il n'y a pas de pollution.
C'est rassurant.
C'est rassurant, voilà.
Et assainissante alors, c'est-à-dire dans quel
sens? On a introduit dans notre peinture un micro-capteur, une innovation qui permet d'absorber des composés organiques volatiles cancérigènes comme le formaldéhyde. C'est des composés organiques volatiles qu'on retrouve beaucoup dans les mobiliers neufs. Donc quand vous refaites une chambre d'enfant, que vous achetez un joli lit tout neuf, avec une belle armoire toute neuve et une table allongée toute neuve, malheureusement, on s'en rend pas compte parce que c'est inodore et incolore, mais ça dégage énormément de polluants, et en particulier le formaldéhyde.
Mais c'est dû à quoi ça? C'est un vernis qui est déposé?
C'est une colle. C'est une colle qui est fabriquée à base de pétrochimie, qui est très 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 toxique. Et donc notre peinture va absorber la molécule de formaldéhyde et la transformer en H2O, donc rendre vraiment la molécule cancérigène complètement inerte.
Donc vous voulez dire qu'en repeignant nos murs ou bien il faut repeindre tous les meubles aussi?
Alors il faut repeindre particulièrement les murs, oui.
D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre d'assainir l'air ambiant en fait, et notamment ce qui peut être dégagé par cette colle.
Exactement, parce qu'en fait, notre peinture, quand vous l'appliquez, elle ne va dégager que 0,1 g de composés organiques volatiles au litre. Donc, c'est vraiment l'action de dépollution de l'air intérieur et non pas de la peinture qui vient d'être appliquée.
Parce qu'il faut le dire, c'est vrai que c'est en ça qu'elle est unique en France, parce que des peintures et au monde, excusez-moi, parce que des peintures biosourcées, il y en a de plus en plus, à base d'algues, à base de d'huile, enfin tout ce qu'on veut pour éviter justement tous les produits issus de la pétrochimie. Mais vous êtes allé plus loin en innovant justement dans cette peinture. Et en termes de... Alors ceux qui nous écoutent peuvent se dire, mais est-ce que c'est aussi efficace que la peinture que l'on achète habituellement avec justement de la pétrochimie? Et en termes de coloris, est-ce qu'on propose les mêmes gammes de couleurs?
Alors clairement, moi, à la base, avant de créer cette peinture, j'étais entrepreneur dans le bâtiment et donc j'avais une entreprise générale tout corps d'État et en particulier le second œuvre et la peinture. Donc quand j'ai créé le cahier des charges pour réaliser ce produit, on s'est vraiment basé sur la qualité d'une peinture professionnelle, c'est-à-dire un temps de séchage rapide, une opacité très forte et un rendement élevé, plus de 10 mètres carrés par litre. Donc on a vraiment un produit qui est aussi qualitatif qu'un produit professionnel pétrochimique et qui répond vraiment à des critères de qualité et de normes, puisqu'on a toutes les normes utiles pour le bâtiment.
Mais alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de produits comme le vôtre ?
Parce que il y a beaucoup de raisons. Exactement, il y a beaucoup de raisons, puisque nous, quand on fabrique un litre de peinture, un pétrochimiste en fabrique 10 avec le même budget. Il y a ça. Et puis nous aussi, on exploite des filières qui sont encore pas complètement développées de façon très importante. Donc, si tout le monde se mettait d'un coup à faire de la peinture biosourcée, il y aura un vrai problème de fourniture de matières premières.
D'approvisionnement de matières premières,
Tout à fait. Et puis, c'est une conviction.
C'est
une autre façon de fabriquer. C'est une autre façon de conserver aussi, puisqu'on fait appel, on fait très peu appel aux conservateurs qui sont des perturbateurs endocriniens. On n'en rajoute pas, nous, dans notre produit fini. Donc, on a aussi cette volonté-là, c'est de supprimer tout perturbateur endocrinien dans nos produits. Alors, on n'y est pas encore à 100%, mais on y travaille encore. On vient d'embaucher un doctorant qui aura pour mission de travailler sur ces sujets-là.
Alors, au final, je pense que nos auditeurs qui nous écoutent se disent... Combien ça coûte cette histoire ?
Ah, ça coûte 15% plus cher qu'une peinture acrylique, c'est pas énorme.
Donc ça, c'est vraiment accessible.
Alors voilà, c'est accessible quand on recherche un produit de qualité. Si on veut aller dans la grande distribution avec des produits très dilués à l'eau, qui sont très peu chers, qui sont souvent à moins de 4 € du litre, on n'est pas du tout sur les mêmes produits. Aujourd'hui, nous, on a un produit qui répond aux normes d'une peinture premium, donc on retrouve surtout dans les réseaux de distribution professionnels.
Et du coup, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Parce que on parle de Toulouse, vous êtes vraiment dans les circuits courts, vous êtes dans le consommé local. Imaginez, voilà, un Normand qui est en train de rénover sa maison, qui se dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien faire appel à Colibri Peinture, comment faire ?»
Il commande sur le site internet et 48 heures après, il a la peinture chez lui.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas le retrouver aujourd'hui dans les magasins classiques de bricolage.
Exactement. On a souhaité ne pas faire appel au grand réseau de distribution aujourd'hui parce qu'ils sont malheureusement trop consommateurs de marge et ça freine notre développement. Et donc, on a aujourd'hui vraiment un système logistique qui permet en 48-72 heures d'être livré sur son chantier, que ça soit 1 litre ou 100 litres sur palette. On a vraiment tout mis en place pour être très efficace et très rapide.
Vendu exclusivement sur Internet, sur le site www.colibripeinture.com.
C'est ça.
Je voulais revenir rapidement sur votre histoire, parce que justement, vous parliez tout à l'heure de repeindre la chambre d'un enfant, mais vous, ça a été le déclic. Êtes spécialiste de la rénovation d'habitat. Colibri Peinture a été créé donc en 2016.
18.
En 2018 pardon. Et bien, justement, le déclic, ça a été votre enfant. Il a fallu repeindre la chambre. Là, vous êtes dit, moi qui connais bien l'univers du bricolage, vous en avez arpenté les magasins de bricolage et de décoration. Là, vous avez constaté que finalement, les peintures saines et respectueuses de l'environnement, il n'y en a pas tant que ça sur le marché.
Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y avait pas suffisamment d'offres qualitatives aussi au niveau du rendement, au niveau de la qualité, de l'opacité. Et puis la promesse sur la qualité de l'air intérieur n'était pas forcément tenue. Donc nous, si vous voulez, on a effectivement créé avec Colibri Peinture une peinture décorative avec 194 couleurs, donc quelque chose de très inspirant, très très tendance. Mais surtout et avant tout, on a cherché à développer une solution pour améliorer la qualité de l'air intérieur. C'était vraiment ça le leitmotiv de la création de l'entreprise.
Mais alors du coup, l'amélioration de l'air intérieur, elle dure combien de temps ?
Alors, sur la version dépolluante, on va dépolluer pendant 7 à 8 ans quand on a repeint 100% de la pièce. Et les peintures, elles sont garanties 8 ans, comme toute peinture du marché.
Et donc, c'est quoi la prochaine étape pour Colibri Peinture ? Aujourd'hui, il y a combien de clients qui vous font confiance ? Est-ce que vous êtes content de ce bilan ?
On est très, très content. Très content. L'année dernière, on avait plus de 40 clients par jour et les chiffres doublent tous les mois actuellement. Donc vraiment, c'est que la qualité, on a zéro retour négatif, vraiment une communauté de 25 000 abonnés partout sur les réseaux sociaux qui sont très contents, qui nous aident énormément à faire connaître le produit parce qu'il est, il tient ses promesses. Et les prochaines étapes, ça va bientôt arriver. Je vais vous en parler vite fait. On va créer une rupture d'usage, puisqu'en fait, on crée la marque Click and Paint by Colibri. C'est un service qui va permettre aux consommateurs d'acheter pour moins de 10 € du mètre carré tout le matériel et la peinture nécessaire à faire son chantier. Et avec une façon de guider le consommateur pour mesurer sa pièce, pour voilà, de façon très facile.
Une sorte de kit, en fait.
une sorte de kit, mais accompagné avec beaucoup de services, avec les tutoriels professionnels qui permettent de réaliser le chantier de façon qualitative, sans avoir le besoin de l'aide d'un professionnel. Et tout ça tranquillement, assis dans son canapé.
Et voilà. C'est vrai qu'on est, les Français sont de plus en plus nombreux, hein, à aller sur les sites, sur les tutos bricolage, et voilà, sans faire appel à un professionnel. On sent bien que le digital est vraiment au centre de votre stratégie, hein. La vente exclusivement clairement sur Internet, faire appel à une communauté, hein, une oui. Finalement, vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs.
Exactement, et on a aussi, c'est vrai, une philosophie autour du Colibri qui est vraiment l'ADN de notre entreprise, c'est qu'on veut que chacun puisse faire sa part à la fois dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur de sa maison, mais aussi pour la planète. En choisissant d'utiliser nos peintures, vous n'allez pas consommer de pétrochimie, vous n'allez pas rejeter du microplastique dans l'eau, vous n'allez pas polluer l'air intérieur. Vous voyez, donc il y a un mouvement communautaire autour de nous qui nous aide vraiment à faire émerger un produit innovant, mais à démontrer sa qualité et son intérêt.
Bah merci beaucoup pour votre témoignage, Cédric Laurent. Je rappelle que vous avez créé la marque Colibri Peinture en 2018, une marque qui rencontre un franc succès. Ça nous fait plaisir, hein, une peinture qui se veut biosourcée et assainissante. Merci beaucoup pour votre témoignage.
C'est moi qui vous remercie, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Thibaut ?
Vous connaissez tous le maquila, ce bâton de marche équipé d'une pointe en acier, ouais, bien caché dans le pommeau. Bâton cher à nos amis basques. Eh bien, il existe un équivalent gascon. On en avait parlé ici même l'été dernier. Et j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cet objet d'art issu d'un savoir-faire qui, écoutez, a failli être perdu et qui connaît aujourd'hui une seconde jeunesse grâce à un artisan passionné. Il s'appelle Guy Lanartic.
Je crois même que c'est une reconversion professionnelle. Hein. C'est exactement. Un vrai passionné.
Ouais, ouais. Je l'ai rencontré dans son atelier, à Vic-Fezensac, en Occitanie. Écoutez, il nous donne la définition de ce bâton gascon.
Alors, le bâton gascon, d'abord, c'est un bâton qui, à l'origine, était plus ou moins une canne. Donc, c'est assez court. Et comme je fabrique, moi, deux produits, c'est le bâton gascon et le maquila. Le maquila est une canne, dont le bâton gascon, je l'ai fait beaucoup plus haut par rapport à Compostelle et puis pour pas que ça se ressemble. Voilà. Et ce qui est gascon, en fait, ils appelaient ça l'aiguille. Et l'aiguille, c'est l'arme qui est à l'intérieur. Donc, je suis parti de l'arme. Et à partir de l'arme, j'ai recréé le bâton gascon, en prenant ce qu'il y avait de mieux, disons, chez le maquila, l'équilibre, les matières, le bois, le néflier, voilà.
Et là, que les matières nobles.
Que les matières nobles, la partie corne, la partie au niveau de métal aussi. Le métal, c'est souvent en laiton, en argent, voire même en or aussi, quelques-uns aussi.
D'accord. Voilà.
Et je travaille vraiment que sur commande.
Est-ce qu'on peut en décrire un ? On en a un sous les yeux.
Alors, oui, voilà. Alors là, on n'a pas l'image, mais...
Voilà, mais on va décrire pour nos voilà, auditeurs. Donc, il fait quelle taille à peu
donc,
près
donc, celui-là, il doit faire un peu plus de 1,10 m à peu près.
Okay, donc le pommeau, il est en quoi, le pommeau ?
Alors, c'est en corne.
D'accord, le pommeau, d'accord.
Et le manche est en corne. Corne blonde ou jaspé, ça veut dire qu'elle est colorée. Et après, moi, je raconte la vie du personnage dessus. Donc, sur le pommeau, là, il y a les initiales, mais il peut très bien y avoir un logo ou une armoirie. Voilà. Après, il y a toujours une devise.
D'accord, on peut la lire, là, par exemple.
Oh là là, celle-là, elle est énorme. Une seule passion, vous voyez, le travail bien fait. Alors, une seule raison, vous voyez, de vivre, vous voyez, le bonheur de sa famille, une seule conduite, la tolérance, vous voyez.
Voilà,
vous donc, un peu le programme.
C'est le programme, c'est le propriétaire, c'est, voilà.
Alors,
donc, le bâton lui-même, il est en néflié.
Voilà. Ah oui, alors...
Scarifié, vous me disiez tout à l'heure.
Ah oui, c'est uniquement un néflié sauvage, donc je le fais au printemps, donc maintenant, à lune montante. Donc je vais en forêt et je fais des scarifications.
Alors comment ça marche là ?
Alors, scarification, moi j'ai deux outils. Vous voyez, j'ai une roulette pour faire les petits points, vous voyez.
Donc on voit des petits points, effectivement.
Voilà. Et après, j'ai un outil comme ça. Comme un,
alors
un,
l'outil, on peut le décrire, c'est...
Un S, ouais, c'est comme un S à peu près. Et après, on rejoint.
Un petit ciseau métallique.
Et vous avez la sève à montant, au fil des mois, qui vient faire la cicatrice en relief. Et l'important, c'est ceci.
Et l'important, c'est l'intérieur, voilà. Donc on est en train d'ouvrir...
Et là, on découvre...
On découvre,
on l'ouvre... L'arme, l'aiguille. L'aiguille, c'est l'aiguille ou le dard qui est caché donc, sur le bas du bâton. Voilà, hop, clac. Voilà, et pour l'enlever, t'as un moment, tac, tac, hop, il s'enlève tout seul. Voilà.
On a l'impression de le voir, ce bâton gascon. Il fait tout lui-même, Guy.
Oui, oui, absolument. C'est lui qui forge la lame ou qui tresse le cuir. Il maîtrise en tout 6 techniques différentes pour fabriquer un bâton. C'est énorme.
Il vous a dit comment il avait fait pour justement fabriquer celui-ci, comment il en était venu à fabriquer des bâtons comme celui-ci.
Bah oui, en fait, il s'apprêtait à partir pour le Pays Basque pour ouvrir un atelier de maquila entièrement personnalisé. Mais le hasard, ou plutôt le destin, en a décidé autrement. Et il nous raconte la suite.
Puis ici, on m'a dit, plutôt que de partir au Pays-Bas, c'est qu'à recréer le bâton gascon. Il y avait un bâton qui existait en Gascogne, dans la ville qui faisait un sac. Donc c'est un monsieur qui m'a dit, au moins, tu auras créé quelque chose. Oui. Et je me suis installé, donc c'était en 97-98, par là, sur un marché de nuit, le premier. Donc eh bien, les premiers clients, c'était la région parisienne, vous voyez, et les Bretons. Parce qu'il y avait beaucoup de Bretons. Voilà. Région parisienne, encore, c'est des gens qui avaient des racines, quand même, sur le coin. Voilà.
Ils connaissaient cette tradition ou ils ont découvert ils ont découvert à la faveur d'un marché de nuit.
Tout à fait.
Ils ont découvert donc le bâton gascon.
Exactement. Donc c'est moi. Après, bon, j'ai fait beaucoup de salons d'artisanat. Et puis après, j'ai fait pas mal d'émissions d'atelier, notamment avec Nathalie, votre collègue.
Nathalie.
Nathalie. Oui, Nathalie, oui.
On parle de vous, Nathalie.
Ah oui, ouais. Voilà, donc ça m'a fait connaître comme ça. Et puis, je suis tout seul. Donc le créneau est vraiment très petit. Et là, j'ai beaucoup de travail et surtout beaucoup de retard. Voilà.
C'est vrai, Guy l'a rappelé, on a eu l'occasion de se retrouver sur une émission de télévision Midi en France sur France 3. Il y a quelques années, on avait été bluffés par son travail, c'est exceptionnel.
C'est magnifique, c'est un objet d'art.
C'est un objet d'art et comme l'a dit Guy, on n'a pas besoin d'être gascon pour posséder un tel objet d'art de tradition. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à lui. Merci beaucoup. Merci Thibault, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Merci à vous chers auditeurs. Bah oui, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même radio. Et peut-être avec encore Maxime Sénat pour la réalisation. Merci Maxime. Très bon dimanche à tous. Au revoir.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.